même, et il y a une politique religieuse, disons, qui ne dure pas très longtemps, mais qui est présente dans les premières années, notamment qui remet en cause cette tolérance, et sauf que crise financière aidant, et enfin, politique religieuse et retour mythique à Saint-Louis, y compris le retour mythique à la bonne monnaie de Saint-Louis, qui à nouveau provoque un échec. Donc c'est vraiment un retour en arrière sur tous les acquis du règne de Philippe le Bel. Entre 1290 et 1311, il y a des expérimentations en matière monétaire qui produisent un acquis de gestion monétaire et une suite au début de reconnaître les mêmes erreurs en 1303. Ça ne dure pas. Et donc on a le texte. Alors je vais les citer à partir des grands recueils d'ordonnances des rois de France, qui, pour ce texte précis de mars 1303, ont deux versions différentes. Il y a une version qui fait pour deux formes de publication en réalité, mais qui dit exactement la même chose. Le texte a l'avantage de se présenter de manière un peu solennelle comme c'est l'ordonnance faite à Orléans, l'an 32, l'an 32 ancien style, donc 33 nouveaux styles, au mois de mars, à la présence du roi, de nos seigneurs de son sang, des grands prélats, etc. Les grands barons sont rencontrés, etc. Tant sur le fait des monnaies comme sur plusieurs choses qui touchent l'état du royaume. Et parmi les cinq articles, il y a celui-ci, qui fait l'intention aussi de voir le lien avec la pénurie monétaire, pour le grand défaut que le peuple a de monnaie, dont aucun ne peut retenir leur possession ni payer leur rente, comment que l'entente du roi ne soit pas de donner congé de prêter à Dieu. Toutefois, pour la nécessité du peuple, il souffrera aux gens de son royaume et aux autres de dehors demeurant au royaume seulement, que l'on puisse prêter la livre pour un demi la semaine sans lever autre danger, quelle qu'elle soit, et n'en aidera le roi nulle amende. Donc on revient sur cette disposition qui est elle, la tolérance de ce taux d'usure de 20% par an, le demi la semaine. Et on a la même formulation dans la version plus complète, hein, qui est celle une version abrégée, je pense, qui est faite pour la publication orale, l'autre est le texte écrit par le. Je voudrais regarder de près les formes des documents, qui n'est pas simplement en publication. Mais on a toute la rhétorique habituelle des ordonnances qui parle de notre petit peuple et sujet de notre royaume de France, etc. Ont été autant passés moult grevés, dommagés et appauvris par extorsion de très grandes usures, nous, vus de pitié et ayant compassion d'eux. Combien que nous ne venions, nous n'ayons qu'un bon, etc. Donner licence, autorité, corps de prêter à l'usure, etc. etc. Nous n'en donnons pas licence, mais nous n'en lèverons pas amende. Donc on revient à cette situation qui a demeuré, enfin je pense qu'elle est, après par la suite, mais il me semble que c'est là une position qui a été celle de la monarchie française pendant très longtemps, et qui résout tout à fait le problème de. On a une condamnation générale théologique de l'usure, c'est pas bien en général, mais en pratique. Et là, pour nous, les prélats du royaume sont présents à l'Assemblée d'Orléans, et sur cet article, il est précisé que. Ils n'octroient ni ne contredisent l'article. Donc, ils ne souscrivent pas l'article, mais ils ne le contredisent pas non plus. Hein, ils s'abstiennent. Donc, on a une gestion de l'équivoque. Voilà. Donc, je dis pour conclure, pour revenir sur ce tournant de 1300, que c'est une année très riche. Hein, je vais pas mentionner qu'on est en plein procès des Templiers, et donc, en pleine ouverture du Concile de Vienne, dont un des principaux a été de gérer la crise des Templiers. Et dans ce Concile de Vienne, qui s'achève au printemps 1312, décrétale est prise, qui sera incorporée dans le document officiel, donc c'est un texte qui a une valeur de plus forte pour l'Église et qui a gardé cette valeur forte jusqu'en 1917, et qui dit que, elle dit deux ou trois choses, que certaines communes, enfin communautés, ont des statuts qui autorisent expressément l'usure. Et elle impose que ces communautés annulent ces dispositions. Et le deuxième élément, c'est pour lutter contre les contrats usuraires occultes, hein, c'est le deuxième paragraphe, qui est roulé, je suis assez demander de montrer les livres de compte des prêteurs pour établir s'il y a ou non usure. Les livres de prêt des prêteurs, les livres des prêteurs feront foi dans les procès pour établir s'il y a ou non usure. Et il y a le nouveau code de canonique. C'est resté dans le corps de canonique. Et mon dernier point, qui est celui qui a marqué le plus dans la durée, qui est la définition théologique, et qui dit, le fait d'affirmer son présumera, affirmer de manière personnalisée, donc avec obstination, que le fait d'exercer les usures n'est pas un péché, nous le déclarons devoir être puni comme un hérétique. Et là aussi, ça règle assez fortement la question du débat sur l'usure. Et point très intéressant, je vais terminer là pour qu'on ait le temps de discuter, enfin, en reprendre des éléments pour qu'on puisse compléter un peu le tableau. Mais on a, dans la décennie qui suit, plusieurs théologiens, qui ne sont pas du tout des gens hostiles aux déclarations de lutte de l'Église, bien au contraire, qui arrivent à la conclusion qu'il n'est pas possible de démontrer par la raison que l'usure est contraire au droit naturel. Et qui au contraire disent non, elle est, on peut démontrer que l'usure est, enfin que la raison appelle à signer une rémunération pour des prêts de Moutoum, et elle, l'usure n'est interdite que parce qu'elle est condamnée par l'Église, par le Christ, par l'Évangile et l'Église. Et l'Église, ça veut dire cette disposition-là du Concile de Vienne. Et effectivement, donc, le traité inédit de Giral Hont, c'est un théologien franciscain terre-chinois, ainsi que c'est un texte de Genève, quand il est actif à Toulouse dans les années 1315, contient, parce que c'est la démonstration la plus, dans la tentative la plus explicite, de démontrer que l'usure n'est pas un péché. Alors, en partie, c'est un jeune enseignant, on peut voir là un exercice de style, hein, il a le fameux traité d'Olivier sur les contrats sous les yeux. Il le plagie presque, enfin, très largement, et sur le point où il fait sa démonstration, un texte écrit en 1795, il faisait une démonstration que l'usure est un péché contre la raison et contre le pain. Le droit naturel peut s'opposer à l'usure. Il essaie de reprendre les arguments et de trouver une façon de montrer que ce serait difficile. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration ici, mais l'argument est mal formé, hein, les syllogismes ne tiennent pas, et j'ai un article à parler sur la question. IQ est plutôt sur la question. Mais là, il est demandé pour Oxford, donc j'en ai plus là. Et c'est assez amusant comme démonstration, mais il trouve des arguments possibles. J'ai mis les phrases importantes en gras. On va juste voir la fin de point d'arc, c'est très intéressant du point de vue de la pensée économique. C'est des arguments qui se réfèrent à d'autres arguments, c'est une chaîne assez complexe de construction, mais il dit recevoir quelque chose au-delà de la substance que j'apporte, que je prête, en raison de la soustraction de l'usage que j'en avais, de l'usage par lequel j'avais une grande utilité de la chose, au-delà de la chose elle-même, donc demander quelque chose de me demander une rémunération en échange de l'abandon de l'usage de la chose qui me procurait une grande utilité en elle-même peut valoir légitimement d'être rémunéré. Et ne concerne aucune inégalité. Et il dit, ensuite, on suit sur la même ligne en disant, dans ce cas-là, je ne te vends pas ta chose. Hein, c'est-à-dire que l'argument est de dire, une fois que le prêt a été fait, tout ce que l'emprunteur fera avec l'argent prêté lui appartient et lui revient parce que c'est son argent et il en fait, il le fait fructifier selon son industrie. Il dit, dans ce cas-là, je ne te vends pas une chose qui est à toi, mais je donne seulement dans un tel contrat, enfin, je me donne mon indemnité. Donc je me fais indemniser de la perte de l'usage de la chose. C'est un raisonnement qui peut se défendre, mais si ça vous intéresse, je transmettrai l'article quand il sera écrit. Hein, et je dis, alors, dans le 33, qui est très intéressant aussi, il dit, je ne te vends pas ton industrie, mais je te vends l'incitation de mon industrie. Un industriel pris au sens d'une activité, de la dimension qualitative du travail. C'est un mot très important au Moyen-Âge. Je veux dire, c'est pas comment le travail comme effort physique, mais le travail comme activité complexe. Et donc, je trouve la cessation de mon industrie qui m'est dommageable et qui t'est utile. Et avec cette phrase que je trouve remarquable pour expliquer qu'est-ce que de l'argent, en effet, nous ne pouvons pas utiliser le même argent en même temps. Donnez-nous l'excellent pécunia possumus ambo utilissimum. Nous ne pouvons pas faire usage du même argent en même temps tous les deux. Et donc l'argent, c'est un peu de séparation des individus et des activités. Voilà. Donc juste pour vous dire, et là on est encore dans le même contexte. Dernier point pour boucler la démonstration, mais c'est vraiment plus long, je vous dis après. Il se trouve que Giral Hont, dans ce texte-là, discute également d'une mesure prise par Philippe Lebel en 1311 qui visait à encadrer les prix. Et il dit, ça n'a pas du tout marché comme on l'a vu avec le sénéchal de Toulouse qui a mal fixé les prix et ça n'a pas été respecté parce qu'on est en plus en période de crise alimentaire assez sévère et on est en fait presque au point de retournement de la grande dépression du XIVe siècle. Enfin, je crois que c'est exactement le moment du retournement. Donc c'est assez séduisant d'avoir tous ces phénomènes qui se conjoignent. Et on change vraiment, je pense, d'univers à la fois économique, politique, culturel, théologique. Et on rentre dans une phase dans laquelle la question de l'usure, enfin, du moins en France, mais ça, à peu près la même chose en Angleterre, c'est différent en Italie pour des raisons évidentes, mais je pense qu'on peut retrouver au moins des points de comparaison, non pas des parallèles, mais au moins des points de comparaison. Il y a une gestion politique de la question de l'usure qui est tout à fait différente de la gestion théologique qui caractérise la séquence qui va de 1180, au moment où le phénomène prend une importance sociale et commence à être pris au sérieux, à dire au premier plan des préoccupations des théologiens, jusque vers 1310, et on a ce basculement simultané de différents points. Donc en gros, voilà ce que dirait l'article. Ouais.
Merci beaucoup. Du coup, tu pourras t'écouter pour écrire l'article, tu vois.
Ah oui, mais c'est pas utile.
Merci beaucoup d'avoir tenu le temps. Question pratique, est-ce que tu en restes un
puisque... Oui, bien sûr.
On va faire plutôt une discussion générale, je pense même si on pourra revenir sur chaque texte séparément, mais comme d'habitude, s'il y a une ou deux questions précises sur des points pas compris ou pas suivis avant de les oublier, n'hésitez pas. Donc, sinon,
il y a un moment où c'est combien d'anciens styles, combien de
votre. Oui, c'est le fait de calcul selon la date de Pâques. C'est-à-dire qu'on est, on est avant Pâques, on est en mars 1933, avant Pâques, et quand on change d'année à Pâques, donc le texte dit en l'an 32, pour eux c'est en 1932, mais pour nous c'est 1333, parce que le calendrier change à Pâques.
On change d'année
à Pâques. Je vais vous dire en ce qui est le pour...
Italien jusqu'à quand.
Alors ça, c'est vos derniers souvenirs, c'est parce que...
C'est au début du règne Henri IV, je crois, par là. Donc on va laisser la parole à Saint-Gervé, qui est habitué du souvenir qu'on a bien, mais qui n'en est pas moins maître de conférence à l'Université de Paris 8, un américaniste, c'est un beau livre sur la révolution industrielle américaine, et qui, comme beaucoup de monde le sait, puisque je sais dire la publicité de ses colloques et il a raison, travaille avec un certain nombre de gens sur l'histoire de cette notion compliquée de profit, notamment à la charnière 18-19e siècle.
Oui, alors là c'est un autre pan en fait. Enfin, il y a aussi du profit, mais là c'est effectivement beaucoup de... Alors représentation, est-ce que c'est une représentation? Moi j'étais pas gêné avec ce terme du tout parce que j'ai abouti à l'idée finalement qu'effectivement ce que je voyais opérer dans mes comptes marchands c'était en fait une fabrication. Je ne sais pas si c'était une représentation au sens où je ne sais pas dans quelle mesure elle était objectivée dans la conscience des utilisateurs, mais je soupçonne qu'en fait elle l'était jusqu'à un certain point, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de montrer là, que la pratique et la théorie se rejoignaient pas mal au fond dans l'esprit des gens qui faisaient cette pratique. Alors, j'ai, en fait, au départ, effectivement, je travaillais beaucoup sur la révolution industrielle et les profits industriels, et puis je suis en train de glisser peu à peu vers le 18e siècle et les profits marchands, avec et la comptabilité marchande en particulier, ce qui fait que je suis probablement encore assez incompétent, c'est un début de mutation professionnelle, et donc vous avez tout à fait le droit de me faire remarquer que ça va pas du tout, parce que je découvre des terres nouvelles à tous égards. Voilà, alors, en ce qui concerne le profit marchand, pour autant que je sache, et sous réserve de mon ignorance d'origine, à mesure que je m'intéressais de plus en plus à mes marchands américains du début du 19e siècle, et puis en remontant à la fin du 18e siècle, et en remontant de plus en plus, j'ai constaté que j'avais du mal à trouver dans la littérature des analyses qui me permettaient de maîtriser mes sources principales en pratique, qui sont les comptabilités marchandes, c'est-à-dire les grands livres et les tous les comptes courants et tous les journaux, le journaux et grands livres, qui sont utilisés par les marchands. On en trouve beaucoup dans les archives, hein, c'est pas quelque chose qui est rare. Guillaume Daudin, dans Commerce et Prospérité, a donné une tableau synoptique de tout ce qu'il avait pu trouver en ce domaine. Il en a peut-être oublié, après tout, lui aussi, c'est un économiste converti dans le 18e siècle. Enfin, quand même, ça m'avait frappé. Je crois qu'il est quand même plus compétent que moi, et lui non plus n'avait pas énormément trouvé, finalement, d'analyse de comptes marchands et de livres marchands cohérentes. Alors, je me suis un petit peu intéressé à au phénomène. Et finalement, l'explication de la chose a été donnée, en fait, ici, au moment du papier de Natacha Kokrit. Malheureusement, j'ai loupé pour une des trois raisons pour lesquelles j'ai loupé les séminaires cette année, je m'en excuse.